Bienvenue dans le podcast « Où va l'argent ?» de Transparency International France. Je suis Charlotte Palmieri.
Et moi, Sarah Brimboeuf.
Dans cet épisode, nous allons plonger dans les rouages de la criminalité organisée et des techniques d'enquête pour suivre l'argent. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Quentin Mugue. Vous avez passé 10 ans au sein de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, l'OCRGDF, avant de rejoindre Europol, où vous êtes officier de liaison. Et vous avez aussi, en 2021, publié avec Hélène Constanti un ouvrage intitulé « Argent sale, la traque », qui plonge au cœur des mécanismes de la grande criminalité organisée et du blanchiment. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter ces enjeux.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, nous avons souhaité intituler ce podcast « Où va l'argent ? » Qu'est-ce que vous inspire cette question ?
C'est une question centrale dans la lutte contre le crime organisé en général et le crime, même désorganisé. C'est d'essayer de savoir où va l'argent, parce que l'argent, c'est le mobile du crime. Donc c'est sûr que si vous agissez sur l'argent, vous agissez sur le mobile, vous agissez finalement directement sur la criminalité elle-même. Donc c'est très important de savoir où est-ce qu'il va, mais pour savoir où il va, il faut savoir d'où il vient et par où il passe. Et donc là, on se retrouve dans la difficulté inhérente aux enquêtes financières, qui est de savoir est-ce qu'on fait une enquête qui remonte vers l'infraction ou une enquête qui descend depuis l'infraction jusqu'aux opérations de blanchiment. Voilà.
Aujourd'hui, on le sait, près de 70% des groupes criminels européens blanchissent leurs fonds par des circuits classiques comme l'immobilier ou les biens de valeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la lutte contre la délinquance financière est devenue inséparable de celle contre la criminalité organisée ?
Ben oui, pour les mêmes raisons que j'évoquais juste avant. C'est le mobile. C'est-à-dire, les gens ne se lèvent pas le matin avec en tête l'idée de trafiquer de la drogue parce que c'est leur passion dans la vie. Ils le font pour l'argent. C'est la même chose pour tous les crimes. Et en fin de compte, si vous faites abstraction des crimes passionnels et pour une partie seulement du terrorisme, l'essentiel du spectre criminel vise à l'acquisition de valeurs. Ce sont des crimes et des délits acquisitifs. Donc s'intéresser à l'infraction initiale qu'on appelle sous-jacente, que ce soit de la drogue, du proxénétisme, des jeux, sans s'intéresser au mobile, finalement, ça pose quand même problème. Il y a eu de très très gros changements ces dernières années et aujourd'hui cette intégration de l'enquête financière, en tout cas de la dimension financière de la criminalité dans l'enquête initiale, est quelque chose de maintenant assez bien acquis.
Oui, on l'a vu en effet récemment, la création de structures spécialisées, enfin il y a plus longtemps déjà le PNF, la Junelco, l'OCRGDF côté service d'enquête. Est-ce que selon vous, ça a vraiment changé la donne d'avoir ces services spécialisés, centralisés, qui tracent ces flux financiers illicites ?
Alors je pense que ça a changé la donne sans aucun doute, d'autant plus que je viens de l'OCRGDF, donc je ne vais pas vous dire le contraire. C'est à l'OCRGDF qu'on a mené les plus grands, j'en faisais partie, les plus grands premiers dossiers sur la banque souterraine en particulier, avec l'identification du rôle majeur que jouent ce qu'on appelle les SARAF, on y reviendra sans doute, c'est-à-dire des banquiers occultes criminels, qui ne sont pas des véritables banquiers, mais qui sont des intermédiaires criminels.
Quand on évoque la création d'offices nationaux et centralisés, on parle en fait de la mise en place de structures dédiées au traitement des affaires les plus complexes de criminalité organisée, comme par exemple avec la création récente du Parquet National Anticriminalité Organisée, le PNACO. Ces juridictions travaillent elles-mêmes avec des services d'enquête spécialisés, Quentin Mugue a d'ailleurs travaillé au sein de l'une d'entre elles. La création de ces offices, avec des enquêteurs et des magistrats spécialisés, survient en réaction à l'explosion des affaires de très grande complexité, et s'intéresse au schéma dit de haut du spectre, qui permettent d'appréhender toute la chaîne du réseau criminel.
Et pourquoi est-ce que ce sont dans ces services-là ? Parce qu'il n'y a pas que l'OCRGF, il y a de nombreux services spécialisés. Par exemple, à la préfecture de police de Paris, vous avez la BRIF, la brigade financière. Et puis chez les gendarmes aussi, il existe toutes sortes de certifications qui ont beaucoup évolué aussi au fil du temps au sein des forces de police. C'est-à-dire qu'on ne devient pas enquêteur financier qui veut, il faut se former, être capable d'évoluer de manière agile dans un univers un peu technique. Mais c'est la même chose pour d'autres secteurs. Il y a des cyber-enquêteurs, vous avez toutes sortes de spécialisations, en terrorisme aussi, etc. Ce qu'on recherche dans la police, c'est moins d'avoir des comptables ou des experts financiers qui feraient des enquêtes, plutôt que d'avoir des policiers qui sont à l'aise dans ce milieu-là. Oui, parce que sinon, vous vous retrouvez avec un biais, qui est un biais préjudiciable aux enquêtes. Parce que on lutte contre le blanchiment, certes, mais on lutte surtout contre des blanchisseurs. Les blanchisseurs sont des gens et leurs clients ont des besoins. Et donc, il faut essayer de comprendre quelle est cette mécanique humaine qui se joue derrière l'action illégale du blanchiment. Et en fait, c'est cette proximité avec le crime lui-même et les criminels, pour le combattre, qui permet aux enquêteurs, qu'ils soient policiers, gendarmes ou peu importe, et aux magistrats, d'avoir cette connaissance fine de ce que sont les besoins qui sont exprimés. Et de la compréhension de l'expression de ces besoins découlent les mécanismes de blanchiment. Et vous évoquez dans votre question, 70% des groupes criminels en Europe blanchissent dans l'immobilier. Est-ce qu'on en est sûr de ça ?
En tout cas, c'est les chiffres qui sont partagés.
Est-ce que ce ne serait pas 70% de ce qu'on voit ? Est-ce que, quand on regarde par exemple les chiffres des saisies, qui sont en constante augmentation, puisque la France, comme tous les pays européens et de très nombreux autres pays au-delà de l'Europe, a mis en place un ensemble de structures de plus en plus vigoureuses, de plus en plus efficaces. En France, ça s'appelle la GRASC, pour la gestion des avoirs criminels, et puis la PIAC, qui est la plateforme d'identification des avoirs criminels, qui, elle, dépend justement de l'OCRGDF, bon, mais qui travaille sur l'ensemble du pays. Une structure qui a connu un succès fulgurant dès sa création en 2005. J'étais présent quand on l'a monté. Et vraiment, ça a été quelque chose de vraiment extrêmement efficace dès le départ et qui n'a fait qu'augmenter. Dans son rapport de l'an dernier, ils indiquent, et dans les rapports précédents, c'était pareil, que l'immobilier représente effectivement 40%, même plus, un peu plus, de tous les avoirs saisis.
C'est plus visible, le plus facile à
saisir. Ben oui, c'est parce qu'en fait, l'immobilier est un mauvais vecteur de blanchiment. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de bouger un immeuble. Tout ça est en fait documenté, il y a des registres. Ça crée tout un tas d'ennuis, de voisins qui viennent regarder, d'huissiers qui passent, de fuites de gaz sur lesquelles il faut intervenir. Vous voyez ? Et donc, en fait, on se retrouve avec une situation dans laquelle effectivement, il y a beaucoup de blanchiment dans l'immobilier. Est-ce que c'est une part majeure ? Ça reste largement à démontrer, je pense que non. Mais c'est quand même très important. Après, il faut quand même aussi se replacer dans le contexte du blanchiment en général. Parce que tout le monde ressasse à l'envi les chiffres de l'UNODC sur la part du blanchiment dans le PIB mondial. Alors c'est toujours pareil, ça va de 2 à 5%. Et je me marrais l'autre jour en écoutant, je ne sais qui en parler, en disant, vous vous rendez compte, ça représente quand même 800 milliards à 1,7 trilliard. Et puis je me disais, mais comment ça peut faire ce chiffre-là, alors que le PIB mondial, c'est 114 trillions. Donc si c'était entre 2 et 5%, on serait donc quelque part entre 2 et 5 trillions, et non pas 800 milliards. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que cette évaluation date de la fin des années 90. Elle a 25 ans. Et quand vous écoutez les gens en discuter aujourd'hui, ils vous citent des chiffres et des évaluations qui ont 25 ans. Ah oui, je me rappelle d'où ça venait. Et le tout dans un papier qui s'appelle « Le futur de la lutte anti-blanchiment ».
Oui, ça montre la question, la difficulté de la mesure.
Ben ça montre surtout qu'en fait, c'est très compliqué parce que arriver en disant que 70% des groupes criminels en Europe ou ailleurs passe par l'immobilier, c'est possible. Peut-être qu'effectivement 70% sont les mêmes, mais dans quelle proportion ? À proportion de quoi de leur criminalité ? Sont-ils véritablement 70% ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des motifs humains, comme je l'évoquais avant, qui justifient tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin d'acquisition de respectabilité, de statut, etc., etc.
Juste pour revenir sur un chiffre, encore une fois, qui n'a pas changé en 10 ans, le chiffre selon lequel moins de 2% des avoirs criminels en Europe sont identifiés, saisis, puis confisqués. Ceci malgré la création de différentes institutions, malgré une coopération en tout cas qui tend à s'améliorer grâce à des organismes tels qu'Europol et Eurojust. Comment vous expliquez ce chiffre dramatiquement faible ?
Alors, identifiés, non. On identifie plus que 2%. Saisi non plus, puisqu'en fait, saisi oui, mais confisqué non. C'est-à-dire que le pourcentage des sommes saisies est en fait à peu près le double des sommes effectivement confisquées. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, on serait plutôt près de 1%.
Ouais.
Ce qui est peu, bon, ça laisse une belle marge de progression. La raison de ça, si vous voulez, c'est que, il y en a deux. Bon, déjà d'une part, ce chiffre-là est quand même à relativiser. C'est pas parce qu'on saisit peu qu'on arrête peu. C'est-à-dire que la pression policière, en fait, est assez intense et le montant des saisies et des confiscations ne dit rien du démantèlement des organisations criminelles elles-mêmes. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il arrive extrêmement fréquemment qu'on démantèle, je sais pas, il y a des procès énormes dans toute l'Europe en ce moment, vous les suivez, qui sont en fait la conséquence de plusieurs dossiers dont on parlera peut-être, que sont les dossiers en Crochat, Sky Sissi et autres, qui en un mot consistaient à mettre sous le microscope des dizaines de milliers de criminels dans le monde entier en ayant pu hacker leur système de communication crypté. Donc ça a donné lieu à énormément d'arrestations. On est à plus de 15 000. Au regard de ça, dans beaucoup de ces dossiers, qui sont d'une ampleur jamais vue, hein, avec des arrestations coordonnées sur plusieurs pays, les saisies sont souvent assez faibles. Parce que, en fait, on se retrouve face à des problématiques d'exfiltration des fonds, si vous voulez, qui d'ailleurs viennent de plein fouet contredire l'idée qu'on blanchirait massivement l'immobilier. Ouais. Et on peut en parler, si vous le voulez, ensuite, hein, c'est-à-dire quels sont les mécanismes et les vecteurs des transferts de fonds. Après, tout ça, c'est pas pour se dédouaner, si vous voulez, d'un chiffre qui effectivement est embarrassant, puisque ça fait même plus de 10 ans que ça dure. Hein. Et d'ailleurs, c'est un chiffre mondial, hein, c'est pas spécifique à l'Europe. Hein. Il faut être capable d'identifier précisément quels sont les vecteurs d'exfiltration des fonds pour pouvoir les saisir. Et ça c'est une vraie problématique, et c'est effectivement une problématique de coopération internationale, parce que l'idée principalement pour ces grosses organisations, je parle souvent de trafic de drogue parce que c'est vraiment l'activité qui principalement génère des fonds à flux tendu et en quantité énorme, mais c'est valable pour le reste. Si vous avez affaire à des groupes criminels transfrontaliers, si vous voyez, ils vont éviter quand même de laisser leurs fonds sur le lieu de commission de leur infraction. Et si vous ajoutez à cela le fait que si vous êtes un trafiquant, par exemple, c'est pas basé au Moyen-Orient, d'origine balkanique, ayant toute sa structure et tous ses fournisseurs en Amérique du Sud, et que vous alliez comme ça arroser tous les ports d'Europe du Nord de votre cocaïne, rien ne vous oblige à vous faire payer en Europe. Rien. Et en fait, tout vous pousse à ne pas le faire.
Un des autres défis qu'on a pu identifier, c'est aujourd'hui, les enquêteurs peuvent rencontrer des difficultés pour établir des liens entre les suspects et les actifs qu'ils possèdent, particulièrement lorsqu'ils sont localisés à l'étranger. Je parle des trusts, des comptes bancaires, parfois des cryptos, de l'immobilier. Nous avons récemment, nous, publié un rapport qui démontre qu'il existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne beaucoup de données disponibles sur la propriété, mais qu'il y a encore des lacunes et parfois des difficultés à effectuer des recoupements entre ces données. Est-ce que vous avez pu faire ce constat et quelles sont en fait les difficultés que vous rencontrez pour retracer le fil ?
Alors, le constat existe, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher au niveau européen, même au niveau national. On tend vers plus en plus d'intégration, ce qu'on appelle l'interopérabilité des bases de données, etc. Avec des garde-fous qui sont aussi légaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus transformer tout ça dans le meilleur des mondes, vous voyez ce que je veux dire, avec une surveillance absolument massive, etc. Et sacrifier les libertés individuelles de tout un chacun pour en attraper quelques-uns. Bon. Ceci étant dit, on est quand même sur des logiques d'échange d'informations de plus en plus efficaces. Et d'ailleurs, Europol, où je travaille, hein, en est l'exemple parfait, puisque c'est le lieu, en fait, de la mise en commun et du recoupement. Voilà, c'est sa mission première. Elle a de nombreuses autres missions, cette agence, hein, mais très opérationnelle. Mais celle-ci, vraiment, est sa principale mission. Pourquoi ? Parce qu'elle se charge aussi de l'analyse criminelle. Bon, après, tout ça se fait sur des bases volontaires, entre un dialogue entre États, dont tous ne sont pas au même stade de la réflexion. Va sans vouloir ramener le débat sur le cash à chaque fois, si vous voulez, mais quand même vous vous apercevez que, alors que c'est un problème majeur, notamment les paiements en espèces, en France vous pouvez pas payer plus de 1 000 euros en espèces, par exemple, bon, sauf si vous êtes étranger, là vous pouvez, avec des plafonds, mais il existe plus d'une dizaine de pays en Europe où il n'y a actuellement pas de plafond. Alors, tout le monde cite tout le temps l'Allemagne, mais il y en a plein d'autres. Oui. Et donc je pense que ça, effectivement, c'est un souci. Mais après, sur la mise en commun, oui, bien sûr. Après, il y a eu des efforts considérables de fait. Je dis, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et les grandes agences normatives, hein, GAFI, etc., qui se penchent sur la question, participent largement à l'amélioration du dispositif. Mais par exemple, si vous prenez ne serait-ce que les cadastres, aujourd'hui, on a quand même maintenant une situation avec des registres de l'immobilier dans chaque pays qui sont pour la plupart numérisés, digitaux, qu'on peut consulter, et qui aide beaucoup. Après, encore faut-il que ça soit en Europe. Je me rappelle, dans notamment le dossier que j'évoque dans le livre, là, il a quand même fallu que je passe par un hacker qui avait récupéré, parce qu'à l'époque je travaillais sur des centaines de trusts au Panama. Et il se trouve que c'était Mossack Fonseca, mais c'était bien avant les Panama Papers. Et il y a heureusement un jeune homme qui avait eu la bonne idée de récupérer toute la donnée du registre du commerce du Panama et de la réindexer. Parce qu'en fait, pour répondre aux exigences internationales, le registre du commerce était consultable librement par tout un chacun, à condition de connaître le numéro de fiche de l'entreprise. Ce qui rendait le dispositif absolument impossible à utiliser. Quoi. Et lui avait réussi à scraper toute la base de données, la réindexer, et c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer plus d'une centaine de millions d'euros. Mais donc voilà, il y a l'existence même des bases qui pose problème. Lorsqu'elles existent, la facilité à les consulter, et lorsque c'est le cas, aussi la capacité à comparer tout ça avec de la donnée disponible par ailleurs, et notamment de la donnée issue des enquêtes elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas tout faire avec de la donnée publique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce dialogue permanent entre la source ouverte, si vous voulez, la source confidentielle issue des enquêtes, et puis d'enrichir par des allers-retours permanents entre ces deux sources d'information la donnée pertinente pour pouvoir mener des enquêtes. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair.
Très très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui on est loin d'un modèle où un enquêteur pourrait, en ciblant un individu ou une entité, pouvoir avoir accès en tout cas à toutes ces informations, même évidemment pas accessibles au grand public, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui existe actuellement? On en est loin?
À un niveau national, oui, c'est possible. Bon, ça dépend des pays. En France, ça prend un certain temps, parce qu'il faut comparer. On a accès à plein de bases de données, mais il faut les consulter séparément. Mais encore une fois, pour un ensemble de raisons qui tiennent à la préservation des libertés individuelles, etc., etc. Qu'on entend parfaitement. Après, sur un plan international, c'est plus complexe, parce qu'il faudrait que chacun des États, si vous voulez, donne libre accès à ses propres bases. Maintenant, ça se fait. Hein. Prenons par exemple les cas des cellules de renseignement financier, elles sont dans un dialogue permanent entre elles. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est une sorte de Big Brother qui mettrait en commun tout sur tous les citoyens, mais sur des dossiers ciblés, sur des individus en particulier qui font l'objet d'enquêtes, etc. On est là en mesure quand même, au travers de ces CRF, de récupérer et d'agréger de la donnée financière sur des entités diverses, d'ailleurs des individus, mais aussi des sociétés, etc., qui permettent d'avoir une vision plus globale. Après, honnêtement, un monde dans lequel, en cliquant sur un bouton, je puisse savoir absolument tout de vous, et de votre famille, et de vos activités, et peut-être même prédire ce que vous allez faire. Je ne sais pas si ça m'intéresse tant que ça. D'un point de vue policier, évidemment, en tant que citoyen, je ne sais pas.
Tout à fait. Vous mentionnez la coopération des cellules de renseignement financier. Plus largement, on peut dire de coopération internationale, qu'elle soit formelle ou informelle. Donc on se pose la question suivante. Quels sont les principaux défis en la matière? Et est-ce qu'il est aujourd'hui impossible de mener l'enquête lorsque l'argent a atterri ou a transité dans certains pays?
Rien n'est impossible. Alors, ça peut être difficile. Non, mais blague à part, prenons le cas de Dubaï, bon, que, évidemment, vous avez sur les lèvres, qui a été bon, décrit très longtemps, et parfois à juste raison, comme une juridiction particulièrement difficile. Et c'est vrai que se sont concentrés dans cet émirat en particulier, alors qu'il y en a plusieurs aux Émirats arabes unis, hein. Mais enfin, beaucoup de gens pas fréquentables s'y sont installés, des criminels, mais aussi énormément de blanchisseurs, en fait. C'est-à-dire des très très gros opérateurs de ce qu'on appelle le système Hawala.
Lorsque Quentin Mugg parle du terme Hawala, il désigne un système de paiement informel, très prisé des délinquants, pour transférer de l'argent d'un endroit de la planète à un autre, sans passer par le canal des institutions financières. Concrètement, il s'agit d'un système de remboursement de créances qui repose exclusivement sur la confiance entre les agents. Comme il n'y a pas de documentation officielle des transactions effectuées, les enquêteurs sont confrontés à un véritable obstacle lorsqu'il s'agit de retracer l'origine et la destination de l'argent.
Il existe souvent une proximité géographique, si vous voulez, entre notamment les trafiquants, mais pas que, et les gens qui se chargent d'opérer les transferts de fonds pour eux. On a constaté la même chose au Maroc, par exemple, à Casablanca, pour les trafiquants de cannabis, avec ce qu'on appelle des SARAF, c'est-à-dire Waladar, quoi. C'était souvent assez compliqué de coopérer, etc. Et au fil des ans, les choses se sont beaucoup améliorées, et on a obtenu quand même des succès assez phénoménaux avec Dubaï, sur des très 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 gros trafiquants. Hein. On en a quand même identifié, dans le cas de dossier Sky, de très nombreux, et notamment trois, qui a eux seuls importé pas loin de 30% de la cocaïne pour toute l'Europe. Je vous laisse voir ce que ça représente. Donc ça veut dire qu'on parle de milliards et de milliards d'euros tous les ans qui doivent être récupérés, etc. Bon. Et tout ça a été effectivement géré depuis Dubaï. Bon, ces gens-là ont été arrêtés, extradés. Donc il y avait le chef de la Camorra italienne, un membre d'un cartel balkanique très connu, et puis le chef de la Mucro Mafia, un fou furieux qui menaçait même les autorités publiques néerlandaises depuis sa prison. Bon, tout ça a été fait quand même grandement grâce à l'aide des Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, très récemment, il me semble, le ministre de la Justice s'est rendu là-bas, précisément pour des questions de recouvrement de voies criminelles. Donc je pense que ça fonctionne. Après, la conséquence de ça, c'est que, comme effectivement ça devient efficace, on constate que certaines personnes à qui on aimerait bien parler commencent à se déplacer. Voilà.
C'est ça, le jeu du chien.
Oui, mais c'est toujours le glaive et le bouclier, hein, que voulez-vous.
Alors on le sait, les enquêtes anti-blanchiment sont complexes et de plus en plus sophistiquées. Comment est-ce qu'on peut faire face à ces défis ?
En fait, le problème de la lutte anti-blanchiment, si vous voulez, c'est qu'elle est encombrée d'idées reçues et de punchlines qui ne nous aident pas. Vraiment, une des phrases qui... Enfin, il y en a plusieurs qui reviennent tout le temps. C'est extrêmement sophistiqué, c'est très complexe, c'est très long, c'est en constante évolution. On n'arrive pas à admettre l'idée que peut-être la tendance, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est constamment en recherche de nouveautés, d'où l'engouement pour les cryptos, par exemple, qui représente un défi réel. Et il y a tout un tas de dossiers, et certains de très importants, avec des montants énormes, mais qui, à proportion, ne représentent rien par rapport à ce que le cash représente toujours. Si vous voulez. Donc, ce n'est pas diminuer ni la menace future, ni l'intérêt des dossiers qui portent sur ces choses-là, que de dire « Ok, bien ». Mais enfin, à peu près, on évalue que le blanchiment dans la crypto, et non pas avec de la crypto, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus pour faire la différence entre les deux, représente environ 40 milliards de dollars annuels, ce qui, on en conviendra tous, rapporté aux 2 à 5 trillions qu'on évoquait un peu plus tôt, ne justifie peut-être pas qu'on concentre sur ce sujet-là autant à la fois d'attention publique, législative, etc., alors que le dispositif anti-blanchiment lui-même est déjà quasiment intégralement focalisé sur les problématiques de surveillance bancaire et du système formel, à juste raison et avec grand succès, puisque l'argent du crime ne passe pas par là. L'argent du crime, en fait, passe ailleurs. Ce qui s'explique très bien, parce qu'il ne faut pas attendre... Non, vous savez, les criminels sont ce qu'ils sont, mais c'est aussi des gens rationnels. C'est-à-dire que si vous claironnez sur tous les toits, que toutes les transactions sont surveillées, qu'il y a des systèmes d'alerte hyper fins, que demain, l'IA va permettre d'y mettre un terme définitif à toute forme de fraude, qu'on va vous poser 1000 questions et que tout ça va coûter très cher, et que par ailleurs, vous avez un système qui vous coûte zéro, qui a été créé avant la Banque de Suède, qui, vous rappelez les chiffres des saisies, on saisit 1%, on confisque 1%, très bien. Donc, il y a un taux de succès de 99%, et en fait de 100% pour les clients. Puisque quand ils perdent de l'argent, c'est le Havaladar qui paye la différence et qui va bien se garder de dire à son client qu'il s'est fait piquer l'argent. Parce que son business repose sur la confiance. Eh bien, vous choisissez plutôt, si vous voulez, le mode de transfert et de déplacement de fonds qui ne requiert pas que vous fassiez un selfie avec votre portable, en fait. Et voilà pourquoi c'est difficile, si vous voulez, d'arriver à tracer la destination des fonds en surveillant des canaux que les fonds n'empruntent pas. En fait, il existe deux types de crimes financiers, si on veut résumer. Ceux dans lesquels il y a des victimes et où l'argent a été déjà intégré dans le système formel, et vous avez dans cette catégorie les escroqueries, les ransomware, les rugpull crypto, les tournements de fonds au préjudice des sociétés, la corruption, etc. Et là, si vous voulez, vous avez des gens qui vont enfin appréhender de l'argent qui était déjà sur des comptes bancaires, etc. Et qui vont ensuite devoir mettre en place, et je vous rejoins totalement de ce point de vue-là, c'est pour ça que je ne m'oppose pas frontalement à l'idée que ça puisse être sophistiqué, je dis simplement que ça dépend qui. Et là, il va falloir mettre en place des stratégies complexes pour essayer d'apporter une justification mensongère à des fonds de réussite d'origine illégale, ce qui est le premier alinéa de l'article 324.1 du Code pénal sur le blanchiment. Mais il existe un deuxième alinéa. Le deuxième alinéa, c'est toute opération de conversion, placement, dissimulation. Et en fait, c'est à celui-là qu'il faudrait se référer quand on parle du crime organisé. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'autre, quand si ce n'est pas la délinquance col blanc où l'argent a été déjà bancarisé, alors que c'est du crime organisé, ou un peu désorganisé parfois, en tout cas, où on a généré de l'argent en espèces, dans le cadre de trafic, où les gens ont remis volontairement cet argent pour acheter de la drogue, des services de toutes sortes, etc. Bon. Et là, la problématique est différente. La problématique, c'est d'arriver à exfiltrer ces fonds de manière à ne pas se les faire saisir, précisément, loin. Alors après, il existe différentes stratégies. Si vous êtes dans des activités qui sont extrêmement génératrices d'argent, vous allez systématiquement partir vers la Wallah parce que vous allez vouloir exfiltrer les fonds et les emmener dans une autre juridiction, un autre pays, de préférence un pays où l'économie fonctionne en cash. Et là, vous avez l'embarras du choix puisque c'est le cas des deux tiers de la planète, voilà, et de la moitié de l'Europe. Voilà ce que vous allez faire. Si vous êtes un petit trafiquant local et que vous n'avez pas d'attache spécialement à l'étranger ni le souhait d'envoyer vos fonds je ne sais où, à un paradis fiscal ou à l'ombre d'une tour à Dubaï, alors là, vous allez commencer à mettre en place des choses infiniment plus complexes. Et vous allez peut-être effectivement commencer à investir dans l'immobilier, placer de l'argent à droite et à gauche, acheter une montre, faire toutes sortes d'opérations qui sont décrites régulièrement dans les manuels anti-blanchiment. Mais c'est le signe d'un trafic de petite envergure. C'est-à-dire que de manière absolument contre-intuitive, plus c'est gros, plus c'est cash. Et ce que je suis en train d'exprimer là, si vous voulez, ce n'est pas l'opinion de Cantamugue, hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas une opinion. C'est le résultat de l'observation des activités criminelles de dizaines de milliers d'individus entre 2019 et 2024 à l'occasion des interceptions de plateformes de communication cryptées qui regroupaient les gens les plus toxiques de la planète.
Et est-ce que dans le cadre de ces enquêtes, vous estimez que les services d'investigation ont suffisamment de moyens dans le sens ressources humaines, niveau de spécialisation, où il y a encore des efforts à faire?
Je vous mets au défi de trouver un policier qui vous dira qu'il y a suffisamment de moyens. Non mais blague à part, non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, il faut plus investir sur ces sujets en termes de ressources humaines. Il faut du monde, pour une raison simple, parce que tout ce que je vous décris depuis le début, si vous voulez, ça ne se joue pas sur des tableaux Excel. Ça se joue dans la rue. En fait, je suis en train de vous parler d'un travail de police. Je ne suis même pas absolument certain qu'il existe des enquêtes financières. Les succès vraiment considérables qu'on a remportés à l'OCRGDF à l'époque sur ces dossiers, etc., qui étaient vus comme quand même quelque chose de nouveau, hein, tenaient essentiellement au fait que les gens de mon groupe ne travaillaient pas du tout sur les comptes bancaires, hein, puisqu'on avait déterminé qu'ils n'utilisaient pas. Donc on n'allait pas se perdre en réquisition judiciaire, en exploitation de comptes, pour aller vérifier les conditions dans lesquelles le co-dévis de la grand-mère avait reçu 500 euros, si vous voulez. Ce qu'on a fait, en revanche, c'est qu'on est sorti, qu'on a essayé d'identifier quels étaient les collecteurs. Des collecteurs, on est remonté vers les Hawaladars. Des Hawaladars, on a commencé à s'intéresser à leur clientèle. Et finalement, d'un trafic important de cannabis, mais local, qui avait lieu en banlieue parisienne, on est remonté sur 1 milliard, qui n'avait plus rien à voir avec la raison initiale pour laquelle on était là. Puisque, en fin de compte, la demande initiale, c'était « Tenez, mes bons amis, allons donc voir s'il n'y aurait pas un pavillon à saisir dans cette affaire. » Et en fait, en tirant ce fil-là, on obtient des résultats assez extraordinaires. Donc je pense effectivement qu'il faut plus investir là-dessus. Je pense surtout, et c'est un peu une sorte de cheval de bataille de tous les enquêteurs anti-blanchiment, il est très important d'être capable de hiérarchiser les risques. C'est-à-dire, on entend beaucoup cette formule « risk-based assessment », etc. Bon, très bien. Faisons-le. Si vous avez face à vous un système dont vous savez qu'il est utilisé dans l'immense majorité des dossiers, peut-être que c'est bien de vous y intéresser prioritairement. Donc là, ce qu'on dit tous collectivement, c'est pas moi seulement, hein, c'est de dire, en fait, la problématique principale pour le crime organisé, je suis pas en train de parler de la délinquance en col blanc, ce sont les réseaux de banques souterraines. Voilà, point. Ensuite, ça veut pas dire qu'il faut abandonner le reste, parce que c'est très important de le faire, et en plus, ça protège le système financier.
On arrive au bout de cette interview passionnante. Certains de nos auditeurs sont encore en études, peuvent être intéressés par ces métiers. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Et si vous avez une expérience marquante tout au long de votre carrière, que vous avez envie de partager?
Ouais, moi j'ai commencé ma carrière en sécurité publique. Donc, j'étais ce policier en tenue que vous n'aimez pas au coin de la rue. Une expérience passionnante dont je garde des souvenirs impérissables. Après, je travaillais à la BAC, puis après je suis parti travailler dans les services de renseignement. À la suite de quoi, j'ai rejoint l'OCRGDF en tant qu'officier. C'était un choix absolument raisonné. C'est-à-dire qu'au fil des ans, je me suis aperçu, ce que je disais en ouverture, c'est bien, ça boucle, que le mobile, c'était l'argent. Et alors, l'avantage quand même, alors s'il y a des jeunes gens qui souhaitent rejoindre les rangs de la police, je leur dirais juste ceci. L'enquête financière n'est pas menée par des gens dans des petits bureaux qui font chauffer du thé en mangeant des langues de chat. C'est vraiment, probablement, un des secteurs les plus passionnants de l'enquête judiciaire. Pourquoi ? Parce que vous avez une confrontation intellectuelle avec des gens qui sont quand même assez cortiqués, qui est extrêmement passionnante. Donc vous êtes vraiment dans un affrontement quand même. On se tape pas dessus, hein, mais enfin, ça peut arriver. Mais... et surtout, vous êtes au cœur de la machine. Parce que en vous spécialisant sur un domaine spécifique, qui est le blanchiment d'argent, alors vous allez travailler dans votre carrière sur des sujets aussi vaste que le financement du terrorisme, le trafic de drogue, les jeux. Dans une année, vous allez balayer quasiment l'intégralité du spectre criminel. Quoi. Il n'existe pas tellement d'autres activités, si vous voulez, dans l'activité police-judiciaire, qui vous permettent d'avoir cet éventail incroyable. D'ailleurs, ma carrière le démontre, parce que je suis un enquêteur spécialisé anti-blanchiment et j'ai été successivement chef d'un groupe de lutte contre les drogues de synthèse à Europol, en charge de dossiers d'interception massive là, dont je parlais. J'ai monté le premier groupe de lutte contre le financement du terrorisme à Europol, etc., etc. J'ai travaillé sur les crimes de guerre. J'ai travaillé au Liban sur l'assassinat de Rafik Hariri. Enfin, toutes sortes de choses. Donc, ça ouvre vraiment des portes extrêmement intéressantes pour autant que qu'on essaie d'aller voir un peu au-delà des poncifs. Et puis qu'on veuille bien changer un peu les règles du jeu à notre avantage, tout en respectant bien sûr les droits fondamentaux.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Quentin Mugue. C'était passionnant de plonger avec vous dans les rouages de ces enquêtes de criminalité organisée.
Je vous remercie.
C'était Où va l'argent ? Le podcast de Transparency International France. Pour aller plus loin, retrouvez nos actualités et l'ensemble des épisodes sur notre site internet transparency-france.org et sur nos réseaux sociaux.